avez cru. Et plus vous le croirez, plus vous serez transformés en l'image du Seigneur, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et vous n'en aurez pas conscience, ce n'est pas de vous qu'il sera question. C'est du Seigneur. Et vous n'aurez peut-être pas tellement de témoignages à rendre, mais les gens rendront témoignage. Vous ne serez plus que ces gens qui empoisonnent une réunion en voulant rendre témoignage, puis les gens disent qu'on le connaît. Il peut dire ce qu'il veut. Vous ne parlerez peut-être pas beaucoup, mais ce que vous serez aura une telle valeur que les gens diront, ben, ils sont habités. Ça, ce sont les vrais chrétiens. Ce sont des vrais croyants. Le monde le dira. C'est le monde qui doit rendre témoignage de nous. Nous, nous sommes en train de nous fabriquer dans nos milieux des réunions de témoignage. Je ne suis pas contre le témoignage. Confessons ouvertement que Jésus est notre Sauveur, ce qu'il est devenu pour nous. Je pense toujours que c'est parce que celui qui a été l'instrument de ma conversion m'a demandé le jour suivant, un dimanche, soir, de dire ce que le Seigneur avait fait pour moi la veille, et que, au fond, ça m'a lancé dans le témoignage oral aussi, mais je me souviens de cette transpiration que j'avais avant de bégayer quelques mots pour témoigner de ce que le Seigneur avait fait pour moi. J'avais encore des culottes courtes et je tirais sur mon pantalon là pour me donner une contenance, mais je vois encore le regard bienfaisant d'une sœur qui est auprès du Seigneur qui m'encourageait à aller plus loin, à continuer de dire ce que le Seigneur mettait dans mon cœur. Je n'avais pas encore tout à fait 14 ans, alors vous savez, c'est difficile, il y avait une centaine de personnes et des vieilles dames, alors, c'est pas toujours facile, mais c'est quand même de ces souvenirs qui marquent notre existence. Puis il y avait ces paroles, il y avait ces textes. Et on lui donna son sépulcre avec les méchants. On devait jeter son corps à la voirie, comme on devait mettre les brigands. Mais il a été avec le riche dans sa mort. On a raconté un tas de choses là-dessus. Pourquoi ne pas prendre littéralement ce qui est dit? Littéralement, un homme riche, Joseph d'Arimathée, lui a offert son sépulcre, disciple en secret. Il avait un sépulcre tout près du lieu où se trouvait Jésus, un sépulcre qui était personnel, qui était pour lui, dans lequel personne n'avait jamais été mis. Et bien voilà que 7 siècles à l'avance, il est annoncé que dans sa mort, il serait mis, non pas avec les méchants, mais avec le riche, dans le sépulcre neuf de Joseph d'Arimathée. Parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Puis alors vous arrivez au verset 10, et c'est le mystère. Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Ça, on doit adorer. Mais comment est-ce que ça pouvait te plaire? C'est qu'en sondant les Écritures, je vous ai dit quelque chose qui a peut-être pu vous choquer. Vous vous dites, mais il va trop loin quand il dit que nous sommes vus dans les perfections de son Fils. Bien oui. Il a plu à l'Éternel de le soumettre à la souffrance parce qu'il voulait que nous soyons mais rachetés d'une façon complète et totale. Jean, je suis d'accord avec toi. La vie de Jésus, ses souffrances, tout ce qu'il a vécu, c'était un sacrifice de bonne odeur aux yeux de Dieu. Il a eu une vie parfaite, il a eu la vie que l'homme aurait dû avoir, là où nous l'avions déshonoré. Mais par sa mort, dans les souffrances de sa mort expiatoire, il a été vraiment le parfait holocauste. L'holocauste était brûlé entièrement sur le feu de l'autel et on le coupait en morceaux, en entièrement, n'est-ce pas, toutes les parties de la victime étaient sur le feu de l'autel, eh bien, il a plu à Dieu de le meurtrir. Dans sa vie, il a été le parfait sacrifice, et dans sa mort, il a plu à Dieu de l'éprouver de toutes les manières. Et qu'est-ce qui est ressorti de là? Que des perfections. Partout, moi, dans mes entrailles, je l'avais déshonoré. Le Seigneur, examiné jusqu'au fond de ses entrailles, il a honoré Dieu. Et cela, pour qui? Pour moi. Soyez de ceux qui saisissent ce salut. C'était pour vous. Mais il faut une connaissance intime de la personne du Seigneur. Dites-vous, il est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. Il est mon bien-aimé. Il a plu à l'Éternel de me meurtrir. Quand Jésus dit, ne saviez-vous pas qu'il fallait que le Christ souffrit ces choses? C'est ressuscité qu'il dit cela à ses disciples dans la chambre haute au chapitre 24 de Luc. Donc, et à ce moment, il fallait que le Christ souffrit ces choses. Maintenant, prenez au chapitre 2 des Hébreux, il est dit, il convenait que le chef de notre salut fût consommé par des souffrances. Il n'y a pas une souffrance que le Seigneur ne peut pas comprendre. Il consommait, il convenait, puisqu'il était le chef de notre salut, qu'il fût consommé par la souffrance. Et il a montré dans son obéissance de fils une soumission totale à la volonté de Dieu. Et il s'est soumis, il plut à l'Éternel de le meurtrir. Et pourquoi cela? Pour que nous paraissions un jour devant Dieu dans les perfections adorables de son fils. C'est pas un petit salut, le salut de notre Dieu. C'est un si grand salut. Oh, que le Saint-Esprit nous vienne en aide et qu'à la fin de cette journée, il vous communique réellement cette œuvre parfaite du Christ. Ésaïe voit tout cela à l'avance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, et c'est bien pour ça qu'il l'a livré, il verra une postérité, une semence. Et vous êtes cette postérité. Et il faut que le Seigneur la voie. Il prolongera ses jours. Par qui? Par qui est-ce que le Seigneur prolonge ses jours? Par nous. N'est-ce pas? En étant dans vos vies, c'est l'histoire du grain de blé. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a d'autres grains de blé à cause de la mort du grain de blé. Je l'ai dit souvent, mettre un grain de blé dans un écrin, dans un mois, dans deux mois, dans une année, dans 10 ans, il y aura toujours un grain de blé. Mettez le grain de blé dans la terre, il y en aura 30, 60, 100, mais il a fallu que le grain de blé meure. Et ça, c'est la loi de la vie. C'est dans la mort de Jésus que nous avons réellement sa vie. C'est pas une imitation de sa vie. C'est une identification au Christ dans sa mort qui nous donne sa vie. Il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Voilà pourquoi on devrait se réjouir du retour de Jésus, hein, pour qu'il voie enfin le fruit du travail de son âme, pour qu'il puisse dire, me voici Père, avec les enfants que tu m'as donnés, rassemblant tous les morts qu'il va ressusciter et qu'il transforme en l'image de son corps incorruptible, rassemblant les vivants qu'il va transmuer et qu'il rend immortels et glorieux, avec les morts ressuscités, nous les vivants qui demeurons, nous nous en irons sur les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs, et il nous fera entrer dans les maisons, la maison de son Père, dans ses aimables demeures, pouvant dire à son Père, me voici moi, et les enfants que tu m'as donnés. Alors il verra le fruit du travail de son âme, ce que Dieu a fait dans chacune de vos vies. Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à plusieurs, et lui portera leur iniquité. Oui, Jésus, par sa connaissance et par sa connaissance, que nous apprenons réellement ce qu'est la justice, et c'est lui qui a porté toutes nos iniquités. C'est pourquoi vous ne devez pas vivre dans le souvenir de vos fautes, mais vous étant jugé de vos fautes, vous en étant séparé, vous allez de l'avant. Et alors le verset 12, on l'a appliqué quelquefois aux quatre évangiles, et on peut le faire. C'est pourquoi je lui assignerai la part avec les grands, et il partagera le butin avec les forts. Pour quelle raison ? Dieu va-t-il l'élever et lui donner la gloire totale dont nous parle aussi le prophète Ésaïe ? Parce qu'il a livré son âme à la mort. Ça, c'est l'évangile de Jean. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne m'ôte la vie, moi je la donne de moi-même. Ça, c'est l'évangile de Jean. C'est le thème de l'évangile de Jean. Et qu'il aura été compté parmi les transgresseurs. Ça, c'est l'évangile de Marc, où cette phrase textuelle est reproduite. Le serviteur de l'Éternel a été compté parmi les transgresseurs. Le Fils unique de Dieu, le Père, s'est donné lui-même pour nous, Jean. Le serviteur de l'Éternel a été compté parmi les transgresseurs. Et qu'il a porté les péchés de plusieurs, c'est l'évangile de Matthieu, où celui qui était le roi a été rejeté et a consenti à prendre sur lui les péchés de son peuple, un roi qui donne sa vie pour son peuple, et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Pour qui est-ce qu'il a intercédé sur la croix? Pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est quel évangile qui nous dit ça? C'est Luc. Alors vous avez réuni dans ces dernières phrases du verset 12 du chapitre 53 d'Ésaïe, vous avez en quelque sorte réuni les quatre évangiles. Voilà le sommet de la prophétie. Une personne. Et ce Seigneur que nous venons de voir crucifié au milieu de nous, cette vie du Seigneur, moi j'ai été bouleversé quand j'ai réalisé, mais là, Ésaïe parle au passé prophétique, hein, c'est ce qu'on appelle le passé prophétique. Il a une vision tellement claire d'un événement futur qu'il en parle comme si c'était passé. Hein. C'est ce qu'on appelle le passé prophétique. Il voit un événement futur, des siècles vont encore se passer avant que ça arrive, mais il voit cela et il nous en fait la description. Alors, comment voulez-vous, quand vous appliquez cela au Seigneur, et c'est bien sans ça, alors brûlez vos Bibles, hein, parce que alors plus rien ne tient, si vous ne pouvez pas croire ça. Alors, vous ne pouvez plus croire que Dieu ait pu dire à l'avance le nom de Cyrus? Vous comprenez pourquoi on peut croire à l'unité du livre d'Ésaïe? Et mon ami, le professeur Lamorte, qui est auprès du Seigneur maintenant, me le disait encore au sujet de Qumran. Le manuscrit d'Ésaïe qu'on a trouvé en 1947 à Qumran, c'est un manuscrit complet, c'est tout Ésaïe. Alors, pourquoi vouloir dire ça, c'est pas d'Ésaïe, ça, c'est d'un autre, etc. Et puis, même quand il nous parle de genres littéraires différents, vous savez, inviter un bon théologien qui croit à ces plusieurs Ésaïes, puis sans l'énibrer, parlez-lui de vos convictions, puis après offrez-lui quand même un verre de vin, ça dépend de l'atmosphère. Il n'y a pas de mal à boire un verre de vin. Puis tout d'un coup, vous le verrez, qui vous dit, ben, tu sais, je t'ai dit que c'était les genres littéraires, mais je crois quand même que Cyrus est pour quelque chose. La vérité vient en mangeant.
peut-être en buvant. Alors vous avez soif, c'est l'heure, je me permets de vous dire, vous avez encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions?
La partie qui suit traite de la vocation prophétique de Jérémie et l'étude sera sur les chapitres 1 et 33.
Ô Dieu notre Père, tu nous vois en cette fin de journée. Nous sommes rassemblés sous ton regard. Et nos cœurs entourent la personne de ton Fils. C'est lui encore que nous aimerions voir. C'est lui que nous voudrions entendre. C'est sa main que nous voudrions sentir se poser sur nous pour nous bénir. C'est ses traces que nous voudrions voir devant nos pas. Et c'est sa force que nous voudrions ressentir pour continuer la course avec confiance, avec courage, ne nous laissant pas arrêter par les choses qui se voient, mais marchant comme voyant ce qui est invisible. Car les choses qui se voient ne sont que pour un temps et les invisibles sont éternels. Donne-nous d'oublier tout ce que nous pourrions dire de nous-mêmes et accorde-nous la grâce ce soir de ne dire que ce qui est utile, que ce qui est nécessaire pour notre édification et notre bonheur jusqu'à ce que tu viennes en Jésus. Amen. Eh bien, dans cette fin de journée du 12 décembre 1981, nous avons à traiter cette deuxième vocation prophétique que nous vous avons proposée et qui est celle maintenant de Jérémie, le second grand prophète que nous trouvons dans les Écritures. Et je vous disais que chacun de ces messages, qu'il s'agisse de celui que nous avons donné sur Ésaïe ou maintenant sur Jérémie, ces messages auraient la force d'un témoignage. Car si c'est par les paroles d'Ésaïe, le prophète que nous avons rencontré d'une façon vivante et personnelle, le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, c'est en lisant ce chapitre premier de Jérémie que nous avons reçu notre vocation définitive alors que nous étions en convalescence dans une ville du nord de l'Italie après plusieurs années de maladie. C'était au mois de décembre 1936. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je devais rentrer en Suisse et il était question que je reprenne ou mes études ou alors que je commence à le servir. Et le Seigneur m'avait montré d'une façon extrêmement claire que je devais renoncer à vouloir faire mes études et avoir un titre que je pourrais ensuite déposer aux pieds du Seigneur. J'avais dû renoncer à ce qui était le plan chéri de mon cœur, devenir médecin missionnaire. J'avais même dit ça le jour après ma conversion. À la fin de mon témoignage, on a cette assurance, j'avais terminé en disant « Et maintenant, je serai médecin missionnaire. » Et au lieu de devenir médecin, je suis devenu malade. Parce que le Seigneur a toujours à nous apprendre que c'est lui qui a des plans pour nous. Nous, nous faisons nos petits plans et nous pensons qu'ils sont bien dans la ligne du Seigneur et nous les lui apportons en disant, bien maintenant, Seigneur, bénis ce que nous avons préparé et qui est vraiment pour toi. Et pourquoi médecin missionnaire? Parce que dès mon enfance, j'avais souffert de toutes les divisions que je voyais parmi les gens qui se nommaient chrétiens en Suisse. C'était comme quelque chose de physique en moi. C'était une grande souffrance. Et pendant ces années à l'hôpital, j'avais été mis en contact avec des gens de toute confession, avec des athées, avec des vieillards, avec des plus jeunes. J'en avais vu mourir des dizaines autour de moi. J'avais pu rendre témoignage et je sentais que je n'étais pas fait pour être l'homme d'un groupe, pour être l'homme d'un milieu, mais que Dieu m'appelait à être un homme de Dieu pour tous les hommes indistinctement. Et je me disais, travailler en Europe, travailler en Suisse, dans nos milieux ecclésiastiques, c'est semer au milieu des épines. Il y a un verset justement dans Jérémie au chapitre 4 où il est dit « Défrichez pour vous un terrain neuf, ne semez pas au milieu des épines. » Et sans juger mes frères comme étant des épines, j'avais l'impression que les milieux dans lesquels on se trouvait étaient vraiment encerclés d'épines et que ces épines risquaient d'étouffer la semence. Alors, j'avais cette vision, mais c'était la vision de mon propre cœur, comme il en est souvent parlé dans Jérémie, il faut faire attention à la vision de notre propre cœur, et ne pas suivre la vision de notre propre cœur, même que c'est une vision qui nous paraît bien spirituelle. Cette vision de mon cœur, c'était de me dire, chez les païens, sur une terre étrangère, en Afrique, par exemple, au Tibet, j'avais aussi le Tibet devant moi, eh bien, je pourrais parler à des âmes après avoir soigné le corps. Au fond, mon entrée dans l'âme, c'était en me penchant sur les corps, en me disant, eh bien, si je suis médecin et un médecin croyant, si je fais du bien à un corps, eh bien, cette personne sera plus disposée à entendre la parole. Et ça, c'était ce que je voyais. Et j'avais un goût spécial pour la médecine. Et vous voyez, c'est très drôle dans la vie. La mère de mes enfants, dans mon premier mariage, était la femme d'un médecin. Et puis maintenant, ma femme que le Seigneur m'a donnée et qui est pour moi l'exaucement des prières de la mère de mes enfants, pour moi et pour mes enfants, mon Eva est médecin. Donc le Seigneur fait quand même très bien les choses. Et je dois vous avouer que pendant des années, chaque fois que j'entrais dans un hôpital, parce que j'ai beaucoup travaillé parmi les malades, eh bien, ça me prenait encore aux entrailles, ce désir de pouvoir soigner les malades d'une façon qui soit, au fond, un sacerdoce et un ministère. Mais le Seigneur m'a donné de le voir en la personne de ma femme bien-aimée, à laquelle j'aime rendre ce témoignage que elle qui désirait à l'âge de 4 ans être médecin, ben elle l'est devenue, n'est-ce pas? C'était un désir que le Seigneur a exaucé. Tandis que moi, bien, il ne m'a pas exaucé. À des personnes, il dit oui, puis à d'autres, il dit non. Mais quand il dit non, c'est qu'il a autre chose en vue pour nous. Alors, ce qui compte, c'est ce que lui veut pour nous, et ce que lui veut pour nous est certainement toujours le meilleur. C'est pas à nous à choisir. Mais le livre de Job a été pour moi une grande bénédiction parce que justement, ce Job s'écrit à un moment donné, mes desseins sont frustrés, les plans chéris de mon cœur. Ah oui, moi j'en avais aussi des plans chéris. les planches chéries de mon cœur, tout ça, le Seigneur les a balayés. Et pendant 4 années, il m'a formé à l'école de la souffrance dans différents endroits et souvent très proches de la mort pour moi-même, mais aussi en voyant mourir ceux qui m'entouraient. Cela nous amène à réfléchir et nous mûrit très rapidement. Et contre toute attente, le Seigneur a permis que je me rétablisse. Et alors, ce qu'il m'avait montré d'une façon très claire est que je ne devais pas désobéir, je ne devais pas reprendre mes études. Alors que faire? Et c'est là que j'ai été dans un combat très grand, à genoux, dans cette ville d'Italie, un soir à 5 heures. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu veux que je commence à te servir, alors que je me trouve trop jeune, et que dans le milieu auquel j'appartiens depuis ma naissance, et auquel j'ai adhéré après ma conversion, parce que je voulais me souvenir du Seigneur, la Sainte Cène avait pour moi une importance capitale, et j'aime à rendre ce témoignage que communier tous les dimanches a été pour moi ce qui m'a certainement gardé depuis l'âge de 13 ans et demi de ma conversion, ce qui m'a gardé de bien des chutes et de bien des péchés, parce que j'avais compris que je ne pouvais pas venir à la table du Seigneur en ayant été dans la semaine m'attablé à celle des démons. La table des démons, c'est la table que préside Satan et qui est dressée dans le monde et où le monde va rassasier ses appétits naturels. Alors, il ne peut pas y avoir communion entre la table du Seigneur, qui est une table unique pour les enfants de Dieu, pour tous les enfants de Dieu, d'où qu'ils proviennent, ils ont leur place à la table de leur Père, qui est la table du Seigneur, mais il ne peut pas y avoir communion entre cette table-là, et non pas la table d'une autre communauté chrétienne, mais la table des démons, qui est la table du monde, dont Satan est réellement le prince. Et nous vivons les 6 jours ouvrables et quelquefois presque les 7, vraiment dans le monde, en contact avec le monde, avec toutes les sollicitations du monde. Mais j'avais vraiment compris qu'à la table du Seigneur, ma communion n'était pas simplement personnelle avec le Seigneur, mais donc verticale, mais aussi une communion horizontale, que j'avais communion avec mes frères. Et que si moi je vivais dans le péché, et que je m'approchais de la table du Seigneur, non seulement je buvais et mangeais un jugement contre moi-même, et je péchais contre le Seigneur, mais je péchais aussi contre mes frères. J'apportais une souillure qui souillait aussi mes frères, et que je serais un interdit dans cette communauté. Donc je devais vivre dans le jugement de moi-même. Et comme tout jeune homme, j'ai eu aussi toutes les tentations possibles, et vous savez, c'est pas nécessaire d'être malade pour être mis à l'écart des tentations, bien loin de là. Et surtout quand vous êtes dans une clinique et qu'on vient vous faire des visites nocturnes et que ce sont pas les premières venues qui viennent vous rendre visite à ces moments-là, parce qu'il y a toujours des âmes charitables qui pensent devoir initier des puceaux. Bon, alors, parce qu'on n'est pas un homme, n'est-ce pas, si on est encore vierge. Et il y a des jeunes veuves, directrices de cliniques, qui sont très expertes aussi dans ce domaine-là, et qui vous offrent facilement leurs services. De sorte que le Seigneur est quand même merveilleux, parce qu'il met comme une espèce de voile devant nous, et puis, pendant le moment de la tentation, je leur parlais du Seigneur, je rendais témoignage, et puis une fois qu'il n'y avait plus la possibilité de tomber, alors j'avais toutes les mauvaises pensées. Mais la femme, elle était loin, elle s'était découragée. Alors, ça allait trop long. C'est quand même extraordinairement merveilleux, la grâce prévenante du Seigneur. Mais en même temps, il nous montre qu'on est bien comme les autres, hein, et qu'on serait bien capable de faire comme les autres, et pire que les autres encore. Mais le Seigneur est là, Et c'est quand même toute une éducation merveilleuse. Mais je témoigne de cela, que la Sainte Cène, le fait de participer à la table du Seigneur le plus souvent possible, m'a certainement beaucoup aidé. Il y a une grâce de pouvoir communier avec le Seigneur en sachant que c'est quelque chose de réel, qu'on est en relation avec quelqu'un et que ça nous lie aussi les uns aux autres. Si un membre souffre, tous les autres souffrent. Si un membre est glorifié, tous les autres se réjouissent. Et si l'on vient dans un bon état, dans une communauté, eh bien, on apporte aussi cette atmosphère positive dans la communauté et on est en bénédiction à tous ceux qui s'y trouvent. Mais si on vient dans un mauvais état ou avec un esprit négatif, eh bien, on apporte aussi une faiblesse dans la communauté. Alors, vous me direz, il est encore dans son Jérémie. Mais je vais seulement l'aborder, parce que de toute façon, 52 chapitres à parcourir, on ne peut pas le faire ce soir. Je voudrais vous en donner simplement le goût. Et vous avez déjà lu premier chapitre. Ce n'était pas du tout une manière que j'avais prise, parce qu'on m'avait bien mis en garde contre cela, d'ouvrir notre Bible après avoir demandé au Seigneur de nous donner un texte et de nous diriger, quoique je sais aussi que dans des très bonnes familles, on a des petites boîtes avec toutes sortes de textes bibliques, et puis à Nouvel An, par exemple, chacun tire un verset, et forcément, bien, c'est quelque chose de très beau, c'est une promesse, quelque chose qui est édifiant, on peut faire cela. Mais ouvrir la Bible comme ça au hasard, prendre ce livre comme l'oracle qui va nous donner une direction, je la connaissais la direction du Seigneur. Il m'avait dit que je devais commencer. Mais qu'est-ce qui me manquait pour commencer? La foi. Que je pourrais aller dans la dépendance du Seigneur. Qu'est-ce qu'il me caractérisait? J'avais peur. Peur de qui? Peur de mes frères, comme j'ai eu peur aussi une fois de ma belle-mère. Bien sûr, non, mais c'est ça le fond du fond. Hein. Quand on ne devrait pas avoir d'enfant et puis que voilà qu'on apprend que notre femme est enceinte, eh bien, de qui est-ce qu'on a peur? C'est pas toujours la crainte de Dieu qui est dans notre cœur. Hein. Quand on s'analyse vraiment devant le Seigneur, on voit que c'est plutôt, et là j'avais dû le confesser, j'avais peur de ma belle-mère, parce qu'elle allait dire que j'étais un assassin, s'il arrivait quelque chose. Mais la mère de mes enfants n'est pas morte dans un accouchement. Elle est morte 13 ans après, ou 11 ans après, et de toute autre chose. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Mais notre cœur, eh bien, vous allez lire Jérémie, c'est un spécialiste du cœur. Il dit que le cœur est trompeur, tortueux par-dessus tout, qui le connaît, hein? Chapitre 17, là vous aurez un cardiologue qui va vous conduire. Hein. Jérémie nous parle beaucoup du cœur. Je pourrais prendre le cœur à travers tout le livre de Jérémie. C'est pour vous un sujet à étudier. Alors donc, dans ma chambre, je priais et j'avais toutes sortes de réserves. Et je savais, le Seigneur me disait, tu dois commencer. Pendant 2 mois, j'avais, avec ma tante, évangélisé en Italie, dans des maisons, dans des hameaux, de ces personnes pauvres. Et vraiment, mon cœur avait été saisi, mon cœur avait été pris, et je disais, tu ne dois pas perdre de temps, et tu dois donner la Bible. Je suis descendant des Huguenots, je suis de ces gens qui ont été persécutés, enfin les ancêtres, à cause de la Bible, qui ont dû fuir la France à cause des dragonnades de Louis XIV, et parce qu'ils avaient la Bible, parce qu'ils vivaient avec le livre, eh bien, cela s'était resté dans mon cœur. Il faut que tu communiques la parole aux âmes. Mais Seigneur, je m'en vais rentrer en fils, et qu'est-ce que mes parents diront? Et puis, qu'est-ce que mon Église dira? Parce qu'on n'avait jamais vu un jeune homme de 19 ans se mettre au service du Seigneur. On se mettait au service du Seigneur dans nos communautés quand on avait une grande barbe blanche, comme ça, qu'on avait bien réussi ses affaires, à part quelques exceptions. Et il y en a eu qui ont eu des petites barbes noires avant de la voir blanche et qui étaient au service du Seigneur. Mais encore, c'était extrêmement rare. La plupart de ceux qui travaillaient dans l'œuvre de Dieu dans nos communautés étaient des hommes qui avaient eu une belle situation dans le monde, qui étaient arrivés, mais aussi grâce à leur qualité et à leur piété, certainement, pour beaucoup. Mais on ne voyait pas des jeunes se lever et sans avoir passé par une école biblique quelconque, commencer un ministère, un service. Et pourtant, c'était à cela que Dieu m'appelait. Alors, j'étais à genoux et j'ai dit, « Seigneur, tu sais que ce n'est pas une habitude pour moi, mais si tu me demandes vraiment de commencer, donne-moi une parole. » Et j'ai ouvert ma vie. Et à ce moment-là, je n'osais pas ouvrir mes yeux. Je n'osais vraiment pas ouvrir mes yeux. J'étais à genoux devant la chaise, comme j'avais été à genoux devant une autre chaise en Suisse, le jour de ma conversion. Et quand j'ai ouvert les yeux, je venais de dire au Seigneur, « Je suis trop jeune, je ne suis qu'un enfant. » Et quand j'ouvre les yeux, ne dis pas je suis un enfant. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça vous fait quand même un peu frissonner. Là, on ne se dit pas, c'est une simple coïncidence. Si le Seigneur, parce qu'il connaît quand même notre faiblesse, si le Seigneur avait été visible et présent dans cette salle, dans cette chambre, je n'aurais pas réalisé davantage sa présence. J'ai eu des moments où j'ai réalisé, où j'ai vu le Seigneur, où le Seigneur s'est révélé à moi. Mais là, il s'est révélé à moi par sa parole. Et je me suis mis à lire. C'était ce premier de Jérémie. Vous l'avez lu. Parole de Jérémie, fils de Hilkija. Et alors, si vous voulez faire une étude de ce chapitre, vous allez retrouver cet Hilkija dans l'histoire du roi Josias. Hilkija était donc un sacrificateur et Jérémie était donc un fils de sacrificateur. Il faisait partie d'une famille sacerdotale qui vivait à Anathoth, qui est à une petite ville lévitique à 5 kilomètres au nord de Jérusalem, dans le pays de Benjamin. C'est là que les sacrificateurs, comme Zacharie, vous vous souvenez, qui était à Ein Karem et qui venait lorsqu'il avait sa charge à accomplir au temple, il faisait le voyage, puis il retournait chez sa femme Élisabeth. Eh bien, il en était de même d'Hilkija, qui vivait dans ce qu'on pourrait appeler les suburbs de Jérusalem. Et c'est Hilkija avait, entre autres, il avait toute une famille que vous trouvez au chapitre 11 de Jérémie et dans d'autres passages, mais il avait en particulier un fils, Jérémie. Jérémie, qu'il avait certainement bien instruit dans la parole de Moïse, dans la parole du Seigneur, comme devait le faire tout sacrificateur, si vous relisez le Deutéronome. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée, donc au temps, de nouveau, vous pouvez voir, si vous étudiez Jérémie, en quel temps il a travaillé, comme on a vu qu'Ésaïe a travaillé en un certain temps, sous le règne de quatre rois qui se sont succédés. Là aussi, nous voyons qu'un siècle plus tard, environ, notre Jérémie a été appelé au temps de Josias, non pas d'Ozias, Ozias c'était pour Ésaïe, mais ça au temps de Josias, un des rois de Juda, fils d'Amon. Amon était le fils de qui? De Manassé. Et c'est Amon malgré le repentir de son père, ce Manassé qui avait fait probablement mourir Ésaïe, cet Amon avait mené une vie tellement effroyable, malgré le repentir de son propre père, Manassé, qui pour moi a été certainement l'éducateur du tout jeune Josias. Josias devait aller vers son grand-père, qui avait passé par une humiliation profonde, après tout le mal qu'il avait fait, tous les péchés qu'il avait fait. Le Seigneur l'avait visité, et je pense que Manassé, voyant la vie que menait son propre fils, et qu'il devait se dire, c'est de ma faute, il avait une consolation en voyant qui ? Son petit-fils. C'est beau de relire tout cela, parce que vous vous sentez concerné, vous sentez qu'il y a des liens avec vos propres familles. Alors, cet Amon, un jour, il a été assassiné par ses propres serviteurs, qui n'en pouvaient plus de cet impie Amon. Alors, il est assassiné, mais c'est son fils, Josias, qui sera mis sur le trône à la place de son père. Et il a quel âge quand il est mis sur le trône ? 8 ans. Il a seulement 8 ans. Vous avez cela dans le deuxième livre des rois, au chapitre 22e, c'est ce qu'il vous faudrait lire, tout le règne de Josias, chapitre 22, chapitre 23, et aussi dans le deuxième livre des chroniques, depuis le chapitre 34. Vous avez dans le deuxième livre des chroniques, depuis le chapitre 34, le règne de Josias. Et vous savez que les Juifs n'aimaient pas du tout avoir un enfant comme roi. C'était dit déjà dans l'Ecclésiaste. Et ce petit Josias, bon, on l'avait couronné roi, mais enfin, quand c'est un enfant qui est roi, eh bien, il est plutôt un peu méprisé. Et il a alors des conseillers, et ce que vous allez voir, c'est que Ilkija, le père de Jérémie, a certainement eu une grande influence sur Josias. Et comme Ilkija avait donc une influence sur le jeune roi Josias, et que Josias avait à peu près l'âge de Jérémie, on peut penser que Jérémie et Josias étaient non seulement rois et sujets, mais amis aussi. Et cela est prouvé, parce que à la mort du roi Josias, eh bien c'est Jérémie qui a écrit toute une complainte, un peu probablement dans le genre de David qui écrit sa complainte à la mort du roi Saül. Eh bien c'est Josias, vous avez cela dans le livre des chroniques, qui a écrit à la mort dans la bataille. Josias n'a pas écouté ce qu'on lui disait, il a voulu aller au combat contre le pharaon Necho et il a été blessé par les archers et il s'est senti grièvement blessé et il a demandé qu'on le transporte à l'écart et il est mort dans cette bataille et on l'a ramené son corps à Jérusalem et c'est notre cher Jérémie qui a fait la lamentation. Il était spécialiste dans les lamentations et dans les complaintes, puisque vous avez, en dehors du livre de Jérémie, aussi les lamentations de Jérémie. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Puis alors, le verset 3 vous montre jusqu'où est allé le ministère de Jérémie, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, qui était le frère de Joachim et qui était fils aussi de Josias, roi de Juda. Il y a eu deux frères qui ont été rois là, et puis jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. C'est-à-dire que Jérémie est le dernier prophète qui a travaillé dans la ville de Jérusalem, jusqu'à la destruction de Jérusalem. Il y a de grands événements dans la vie de Jérémie. Disons qu'il y en a eu trois grands événements. La mort de son ami et roi Josias, dans cette fameuse bataille contre le pharaon Necho d'Égypte. Et puis, il y a eu aussi une autre bataille. Puis, il y a eu aussi une autre bataille quelque temps après cette première, la bataille de Carchemish, 4 ans plus tard, et qui a eu lieu aussi tout près de Megiddo, où était mort Josias, et qui s'est faite sous le règne de Jéhoiakim, et où Nebuchadnezzar a battu les Égyptiens et les enfants de Juda qui s'étaient mis avec les Égyptiens. Et il y a eu une première déportation, et dans cette déportation, qui n'était pas encore la déportation définitive, on pense que Daniel, justement, a été parmi les déportés, ainsi qu'Ézéchiel, dont je vous parlerai demain. Nebuchadnezzar a pris seulement des fils des grands pour les éduquer à Babylone. Alors, Jérémie a vécu ce temps-là, mais il a pu rester, lui, à Jérusalem, et il a continué son ministère, donc, jusqu'à la chute de Jérusalem. Et cet homme a pu voir que tout ce qu'il avait annoncé comme malheur sur cette ville, qu'il avait appelé sans cesse à la repentance, s'était accompli. On ne se moque pas de Dieu. Mais son cœur de prophète était brisé. Il n'était pas un Jonas qui disait, ben voilà, hein, j'ai prêché, maintenant il faut que Ninive soit détruite dans les 40 jours. Non, quand Jérémie a vu vraiment que la parole de Dieu s'accomplissait, et dès sa vocation, il a eu une vision qui lui prouvait qu'on devait prendre Dieu au sérieux, et que sa parole s'accomplirait. De toute manière, tout ce que vous avez entendu de la parole aura un accomplissement dans votre vie. Et ce soir, je voudrais vous en témoigner très humblement après 45 ans de ministère au service de mon Seigneur. Donc, vous voyez maintenant, jusqu'au verset 3, l'époque où a travaillé Jérémie. Donc, Ésaïe, lui, a œuvré pendant que Dieu était encore en relation avec son peuple et que la gloire du Seigneur se trouvait dans le temple de Jérusalem. Dieu n'avait pas encore rompu avec son peuple. Mais Jérémie, lui, il reste à Jérusalem jusqu'à la fin, mais il assiste à cet accomplissement de l'Écriture, la destruction de Jérusalem et la captivité complète, alors, maintenant, de Juda à Babylone. Mais c'est lui, Jérémie, qui avait eu cette révélation qu'après 70 ans de captivité, vous lirez cela au travers de son livre, Dieu visiterait son peuple et ferait revenir de la captivité un certain nombre de Juifs pour reconstruire le temple. Et c'est là qu'allait s'accomplir la prophétie d'Ésaïe. C'est un certain Cyrus qui a succédé à l'empire babylonien et qui a fondé l'empire de Perse. C'est ce certain Cyrus que Dieu allait employer pour qu'au bout des 70 ans, des gens de Juda remontent de la captivité sous la conduite de Zorobabel, de Josué, de Séaltiel et d'Esdras pour reconstruire le temple. Donc, replacer l'autel sur ses bases, la maison sur son fondement, et après, avec Jérémie, les murailles de Jérusalem, avec Néhémie, les murailles de Jérusalem sur leur emplacement. Et vous avez tout cela dans le livre d'Esdras et dans le livre de Néhémie, l'édit de Cyrus de Perse qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Et nous connaissons comment, par les prophètes Agé et Zacharie, ce temple, qui est le deuxième temple, a été reconstruit, et comment aussi Daniel, qui était lui-même captif, avait reçu le texte des prophéties de Jérémie, et que c'est en lisant les prophéties de Jérémie qui avaient été copiées par Baruch, le secrétaire de Jérémie, eh bien, c'est en lisant ces textes-là que Daniel a été conduit à faire sa fameuse prière d'humiliation que vous trouvez au chapitre 9 de Daniel. Et c'est pourquoi j'insiste sur ces références pour vous montrer, même si je vous ennuie un peu, l'unité de l'écriture. Vous voyez au chapitre 9 de Daniel, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à qui ? À Jérémie, le prophète. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux, ça ? Voilà que tout à coup, lisant la parole de Jérémie, Daniel se dit, il fait son compte, hein, et il était capable de compter, puisque on ne pouvait pas retrouver dans ses livres aucune erreur, hein, chez Daniel. Il était tellement exact en tout. Alors, ce cher Daniel comprend par les Écritures que le temps est venu pour que Dieu accomplisse sa promesse. Alors il y va de tout son cœur, il a une parole, et il va à Dieu avec cette parole. C'est ce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Lisez la parole, apprenez à connaître la parole, emparez-vous d'une promesse, et ayant la conviction qu'elle est pour vous, allez au Seigneur avec cette promesse. Il dit, tu l'as dit, Seigneur, je le crois. Et vous verrez le Seigneur intervenir. Et puis sinon, peut-être qu'il va vous dire non sur ce point-là, mais il ne va pas vous abandonner, il ne va pas vous laisser, il va vous conduire plus loin. Mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel qui nourrit ma prière. Ma prière doit être dirigée. Ma prière, ce n'est pas des mots, des phrases, et puis une espèce de louange seulement, mais nous avons une conviction qui est éclairée par la parole de Dieu, et nous allons avec cette parole. Et nous savons que si nous demandons quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, nous savons que nous avons la chose que nous lui avons demandée. C'est pourquoi, avant même de l'avoir reçue, il devrait y avoir dans nos prières ce qu'on appelle des actions de grâce. La louange et la reconnaissance, merci Seigneur, de ce que tu m'as exaucé. C'est la manière de Jésus. Père, dit-il dans un cimetière, je sais que tu m'exauces toujours, puis encore là au fond de la tombe, le pauvre Lazare. Et le Seigneur est déjà en train de louer. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Puis après seulement il dit, Lazare, sort dehors, elle mort sort. Eh bien, voilà notre Seigneur. Alors, je reviens toujours dans ma chambre, tout en essayant de développer ce premier chapitre qui est la vocation d'un homme, la vocation de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Maintenant qu'on voit qui est Jérémie, et dans quel temps il vivait. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortisses de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Pour ceux qui critiquent le mémoire des évêques, devraient peut-être lire ce texte. Parce que du moment que les évêques ont pris position contre l'avortement,
ça ne peut être qu'une grave erreur, puisque ce sont des évêques. Ce qu'on peut être idiot. Vous n'avez pas compris que, quand même, ils ont consulté la parole pour dire ce qu'ils ont dit, et que c'est très valable ce qu'ils ont dit. Et ce n'est pas parce que vous avez peut-être souffert d'une certaine intransigeance de l'Église, et s'il y a eu des manquements de la part de certains pasteurs et de certains conducteurs, ce n'est pas pour que nous rejetions tout. Quand une parole est vraie, qu'elle soit dite par un ou par un autre, nous la recevons. Et ça, c'est une preuve quand même d'ouverture. Et voilà, la question c'est, est-ce que c'est conforme à la parole ? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Donc c'est avant sa conception, oui ou non ? Donc est-ce qu'on existe seulement depuis notre conception ? Je t'ai dit qu'on existait depuis l'éternité. C'est ça qui est fantastique. Votre origine est dans le Seigneur. Vous n'êtes pas un accident. Tant pis pour vos parents qui vous ont dit que j'étais un accident. Le Seigneur, si vous existez, c'est lui qui donne la vie. Est-ce que vous le croyez? Que de gens qu'on appelait bâtards autrement. Maintenant, on a purifié notre langage. Mais on dit, moi, je suis un bâtard. Mais non, quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, le Seigneur leur recueillera. Quand on leur dit, mais il y a une parole pour toi. Si tu existes, c'est que Dieu a voulu ton existence. Il ne l'a peut-être pas voulu comme tu es entré dans le monde. Mais enfin, du moment que tu es là, il n'y a pas de naissance sans la volonté du Seigneur quand même. Il t'a donné la vie. Eh bien, recherche ce que Dieu veut de toi. Et alors voilà, tout à coup, un garçon qui se laissait aller, qui trouve tout à coup un but à sa vie et une orientation pour lui. Et le voilà qui est libéré de tous ses complexes. Et Dieu lui donne une situation en vue dans le royaume de Dieu. Et même, il devient utile pour le monde. Voilà des gens dont Dieu s'est servi. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. Alors, vous me direz, ben, qu'est-ce que ça pouvait vous dire, ça? Ça me disait beaucoup. Pourquoi? Parce que ma mère et mon père, alors que j'étais encore très jeune, m'avaient toujours dit cela. Tu sais, on a eu une fille pour commencer. Et puis ensuite, on a dit au Seigneur, si tu nous donnes un garçon, parce qu'il désirait avoir un garçon, nous te le consacrons. Et tu en feras ton serviteur, mais comme tu le voudras, et pas comme les autres. Et mon père disait qu'il avait dit au Seigneur, je voudrais que ce soit un serviteur pour tous les hommes. Il ne savait pas ce qu'il disait, probablement. Parce qu'il n'a pas su ce que ça pouvait coûter dans sa prière. Mais lui qui était pourtant dans un milieu assez fermé, il avait demandé que s'il avait un fils, ce soit un homme de Dieu, comme lui le concevait. Et il avait demandé ça au Seigneur, avec ma mère, avant ma conception. Et voilà qu'ils ont été exaucés, et que depuis ma tendre jeunesse, j'ai eu ce désir de servir le Seigneur, mais avec tous mes plans, tous mes projets, et pendant toutes ces premières années, sans avoir l'assurance de mon salut, bien sûr, j'étais éduqué dans ces vérités, mais enfin c'était un disque. C'était des vérités dont j'avais une connaissance intellectuelle, mais qui n'avaient pas saisi mon cœur, qui était extérieur à moi, tandis que par Ésaïe 53, elles me sont devenues intérieures. Et alors là, j'ai été transpercé, je me suis dit, tiens, ça c'est la prière de mes parents. Mais je ne comprenais pas encore tout ce que ça voulait dire. Et je répondis, alors c'est ça qui était foudroyant, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Maintenant, je comprends les choses d'une façon encore bien différente, mais moi, j'avais dit, « Je ne sais pas parler, sans avoir connaissance ou mémoire de ce verset, j'avais dit, « Je suis trop jeune, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. » Et le Seigneur me disait, «
ne dis pas je suis un enfant. J'avais employé sans le savoir la parole de Jérémie et le Seigneur me répondait, ne dis pas je suis un enfant. Mais de toute façon, mes amis, si le Seigneur veut vraiment nous employer, qu'est-ce qu'il nous demande? Pour qu'on fasse partie du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut devenir comme des petits-enfants. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, et si vous n'avez pas la conscience d'être un enfant, c'est dangereux. C'est le Seigneur lui-même qui le dit dans le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Il nous dit clairement que, il répond à ses disciples, lequel sera le plus grand dans le royaume de Dieu? Eh bien, il prend un enfant et il le met au milieu d'eux. Il dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme un enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est celui qui sera comme cet enfant qui sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Alors, donc, c'était plus simplement des paroles pour Jérémie. Ça me concernait. Nous, 15 jours même, avec un milieu entièrement catholique, là, et il avait dit, au lieu de poser des questions, on pourrait ce soir demander à notre ami qu'il nous raconte sa conversion et sa vocation. Et j'avais raconté cela. Et je me souviens toujours d'une sœur qui est devenue une chère amie pour moi, qui était heurtée. Mais comment est-ce que vous avez pu prendre ça pour vous? C'était cette création, mais comment est-ce que vous avez osé? Ben, j'étais un enfant. Alors quand on nous dit quelque chose, on le croit. Et depuis, nous sommes devenus vraiment amis et le Seigneur a fait tout un travail dans cette âme. Elle en a témoigné. Et c'est toute une autre lecture pour elle, la parole de Dieu. Parce que si vous ne prenez pas les choses pour vous, c'est pour qui? C'est pour que ça reste dans le livre? Ou bien est-ce que c'est pour que ça s'inscrive dans votre vie? Mais évidemment, faites bien attention, je vous raconte pas ça pour vous dire vous allez maintenant ouvrir votre Bible n'importe comment. Parce que comme on vous l'a dit souvent, vous tomberez sur ce verset, il sortit espandit. Alors est-ce que c'est pour vous? Hein? Est-ce que vous allez prendre ce verset pour vous, il sortit espandit, alors vous fermez votre Bible. Puis vous la rouvrez, puis comme vous ne savez pas très bien l'orthographe, voilà, c'est repens-toi. Alors... pour commencer le système. Non mais je crois qu'on se comprend. Hein. On a dit que le Seigneur avait de l'humour. Mais aussi du sérieux. Ne dis pas je suis un enfant. Alors vous voyez tout de suite qui est ce Jérémie. Je vous ai dit que, au fond, la personnalité du prophète n'avait pas tellement d'importance et que bien souvent, on ne sait pas grand-chose d'un prophète. Et sur Ésaïe, on ne sait pas grand-chose. Hein. Mais sur Jérémie, c'est certainement le prophète sur lequel on sait le plus de choses. Et ça m'a beaucoup frappé parce que il s'ouvre à nous et on voit ce qu'il était. C'était un tendre. C'était un homme timide plutôt, c'était un pacifique, c'était un homme qui était passionné de paix, de bonnes relations, c'était un doux, c'était un compatissant, c'était un homme qui sentait tout dans ses entrailles, c'était un homme qui savait ce que c'était que pleurer. À un tel point que quand vous étudiez un peu la personnalité de Jérémie à travers toutes ces pages, vous verrez tout à coup surgir le portrait de qui? De l'homme de douleur, dont vous avez lu quelque chose dans Ésaïe. Jérémie est réellement la figure de l'homme de douleur, de l'habitué à la souffrance. Et il devient ainsi, dans tout son livre, une figure de qui? de Jésus. Et cela est si vrai, comme je vous le disais hier, que quand vous lisez l'évangile de Matthieu 16, et que Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que vous entendez dire de moi, qui disent les hommes que je suis, eh bien on lui répond, les uns disent que Jean-Baptiste et d'autres, Jérémie. Jérémie a laissé, s'il n'a pas eu de succès dans sa vie, parce qu'il n'en a pas eu, hein, sa prédication n'a pas été écoutée, eh bien s'il n'a pas eu de succès dans sa vie, on peut dire qu'après sa mort, tous ces écrits qui s'étaient révélés, parole de Dieu, puisque tout s'était accompli, a été vénéré, a été lu par les gens de la captivité, a été lu par ceux qui remontaient de la captivité, a été lu du temps des Maccabées, jusqu'à ce petit reste qui, au temps de Marie, attendait la consolation d'Israël avec un Siméon et une Anne et qui viennent au temple le jour de la présentation. C'est quelque chose de merveilleux. C'est de ces âmes qui étaient remplies de la parole et qui avaient une connaissance justement des écrits prophétiques et en particulier aussi de ce Jérémie. Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et regardez bien comme c'est précis. Et pour moi, je puis vous témoigner, vous penserez ce que vous voudrez, mais je vous le dis très humblement, sachant que peut-être ce soir je serai devant mon Seigneur, pour toujours. Eh bien, tout ce que je te dirai, tu le diras. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Mais c'est pas drôle de devoir dire tout ce qu'il va nous ordonner, parce que qu'est-ce qu'il va nous ordonner de dire ? Comme notre cher Esaïe qui dit « Me voici, envoie-moi ». C'est beau la consécration. Puis un peu plus loin, « Va à la rencontre d'Akaz et dis-lui « Seigneur, tu ne peux pas envoyer un autre. » C'est ça. Ou Moïse, « Va vers le Pharaon. » La question maintenant, c'est de vivre dans la dépendance. Voyez-vous, il y en a qui croient qu'on est indépendant. Ce n'est pas vrai. L'indépendance des hommes ou d'un système religieux vous oblige à une dépendance beaucoup plus complète du Seigneur. Parce que vous savez, on a son comité dans le ciel, hein. Puis c'est pas des rigolos. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis il y a l'accusateur, qui est là jour et nuit, et qui cherche la faille. Satan. Mais il y a le sang de l'agneau. Que c'est merveilleux. Ne les crains point, tous ces démons-là qui nous font peur. Car je suis avec toi. Oh, qui sera avec nous? Le je suis qui s'est révélé à Moïse. C'est toujours je suis. Le je suis de l'évangile de Jean. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Qu'est-ce qui peut nous arriver si le Seigneur est avec nous? Puis l'Éternel étendit sa main. Ah, voilà, moi je ne sais pas parler. Et vous voyez, dans une vocation, on a dit que le prophète, c'était la bouche de l'Éternel. Et bien voilà que le Seigneur qui a créé notre bouche, qui a fait la bouche du muet, ou du sourd, ou de l'aveugle, eh bien, voilà que le Seigneur qui a fait notre bouche touche notre bouche. Il étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. C'est quand même aussi quelque chose. Et on est toujours humilié parce qu'on se dit souvent, on cherche des choses, on cherche ce qu'on a à dire. Au lieu de s'abandonner, et puis de dire, Seigneur, tu l'as dit, tu vas mettre tes paroles dans ma bouche, donne-moi de me confier en toi. Donne-moi de me confier en toi. Je mets mes paroles dans ta bouche. Voilà un homme capable de s'en faire pour ses sermons. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais peut-être qu'il y aura des temps où il ne faudra pas parler. Hein. Parce qu'on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire.
Mais le drame, c'est quand on devient des officiels, on est obligé de parler, même quand on n'a rien à dire. Si vous regardez un peu la vie des prophètes, eh bien, comme un Élie, il a eu des longues périodes de silence. Après quelques paroles devant Akab, puis après un stage au torrent du Kérit, où il est nourri par des corbeaux. Et puis après, un autre stage chez une veuve, qui n'était pas très parlante, paraît-il. Alors, mes amis, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, regarde. Parce que vous voyez, il touche sa bouche, puis il oriente ses yeux. Il lui montre quelque chose. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Puis il lui donne son programme. Mais c'est terrible. Et si vous suivez, alors, dans le livre de Jérémie, vous verrez que c'est vraiment ça. D'abord, que tu arraches, première chose. Eh bien, en collaborant avec son ami Josias, ils l'ont arraché. Et ils en ont arraché. Dans tout le pays d'Israël, Josias, ayant été mis en possession du livre de la loi qui avait été retrouvé par Ilkija, le père de Jérémie, et d'autres qui devaient trafiquer dans le temple, on a retrouvé à un certain moment le livre qui avait été caché, qui avait été perdu, le livre de la loi. On l'apporte à Josias, Josias se met à lire, il perd sa couleur, lui qui voulait pourtant marcher son Seigneur, il voit que tout est corrompu, alors on va vite chez Hulda la prophétesse pour lui demander ce qu'il faut faire, et puis Josias apprend que parce qu'il s'est humilié, eh bien, le malheur ne tombera pas sur lui, il ne le verra pas, il mourra avant la ruine de Jérusalem. Mais il est mort sur le char de guerre contre le pharaon Necho. Mais enfin, il n'a pas vu, lui, la ruine de Jérusalem. Mais Josias, donc, parcourait tout le pays, et c'est même lui qui est allé pour détruire l'autel, le fameux autel que Jéroboam, fils de Nébat, avait élevé en Israël, à Samarie, et il a accompli, ce Josias, la parole prophétique du prophète de Juda, et qui lui-même, à cause de sa désobéissance, a été tué par un lion, parce qu'il n'a pas écouté la voix du Seigneur, il a écouté la voix d'un vieux prophète qui a dit « Oui, mais le Seigneur m'a dit aussi quelque chose ». Relisez ce chapitre 13 du premier livre des Rois, l'histoire du vieux prophète, et vous verrez que vous ne devez pas suivre tous les conseils qu'on vous donne. Vous devez être des gens qui dépendent directement du Seigneur. Et si le Seigneur vous a dit une chose, ce n'est pas parce qu'un vieux prophète vient vous dire « Mais moi aussi je suis prophète ». Et c'était le drame pour Jérémie. Parce que pour lui aussi, durant toute sa vie, il y avait d'autres prophètes à côté de lui qui disaient autrement. Et qui se disaient prophètes de l'Éternel. Et c'est là une des souffrances de Jérémie, ça a été d'être prophète de Dieu par le Seigneur, mais de se trouver en contact avec d'autres gens qui prétendaient avoir la vocation prophétique, qui était peut-être plus en vue que Jérémie, le fils du sacrificateur Ilkija, et qui disait exactement le contraire. L'Éternel dit paix, alors qu'il n'y avait pas de paix. C'était des faux prophètes. Et il y a des moments où Jérémie n'en peut plus, puis il dit au Seigneur, mais moi ça vaut plus la peine que je parle, ils disent le contraire en ton nom. Et puis Dieu lui dit, mais Jérémie, je ne les ai pas envoyés. Ce sont de faux prophètes. Tu ne vas pas maintenant mélanger la paille avec le bon grain. Toi, tu apportes le bon grain. Et tu dois rester séparé d'eux. Qu'eux viennent vers toi, mais toi ne vas pas vers eux. Voilà, vous pouvez remettre ces versets dans leur contexte. Alors, il a donc été employé pour arracher. Il a participé donc à cette grande réforme de Josias. Il a abattu toutes ses idoles. Il a travaillé avec lui. Il a ruiné tout ce que les rois avaient fait de mauvais.
et il a détruit, mais il avait aussi un programme positif, il devait aussi bâtir et planter. Mais d'abord, c'était plutôt négatif tout ce qu'il devait faire. Et voilà le programme qu'il avait. Et je puis vous dire, mes amis, sans vous donner d'explication, que ça c'était aussi un programme que le Seigneur m'a manifesté sans que je le veuille. J'espère seulement être maintenant peut-être dans la période où le Seigneur me permettra de bâtir et de planter. Mais il y a un combat, il y a une lutte contre toute espèce de doctrine, contre toute espèce de tradition. On veut nous imposer des vues qui sont humaines, des principes humains, des traditions humaines. On veut nous paralyser dans la prédication de la parole. On voudrait qu'on soit réservé à une petite élite, à quelques-uns, alors que le Seigneur est libre de vous envoyer où il voudra et de vous communiquer la parole qu'il voudra que vous fassiez entendre. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: que vois-tu, Jérémie? Et alors, qu'est-ce qu'il voit? Je vois une branche d'amandier. Et vous savez que l'amandier est le premier arbre qui fleurit après l'hiver. Juste déjà au mois de janvier, l'amandier fleurit dans les pays chauds. Et ces fleurs sont quelle couleur? Blanche. Hein? Alors, que vois-tu, Jérémie? Le Seigneur lui donne une leçon. Et il dit: je vois une branche d'amandier. Et quelle est la réponse du Seigneur? L'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Qu'est-ce qu'il a pensé, Jérémie, quand il a vu cette branche d'amandier fleurir? Donc Dieu lui dit qu'il va être prophète des nations. Est-ce que ça sera vrai? Vous vous souvenez pas d'une verge qui avait fleuri? La verge d'Aaron, prenez le 17 des nombres. Voilà que Jérémie voit que quand on a contesté le ministère d'Aaron, hein, eh bien prenons 12 verges des 12 tribus d'Israël et puis déposons-les au pied de l'Éternel. Et celle qui aura fleuri, c'est celle de celui qui a été choisi. C'est beau, ça. Trouvez pas? Que vois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier qui fleurit. Tu as bien vu? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que je t'ai dit, je vais le réaliser. Je vais l'exécuter. Première vision. Et la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Parce que voyez, Dieu parle une fois, deux fois, et on n'y prend pas garde des fois. La première fois, on n'est pas encore entièrement convaincu. Alors, il nous parle une seconde fois, en disant: que vois-tu? Et il répond: je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, c'est-à-dire du côté du nord. Et l'Éternel me dit: c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Donc, il voit que le jugement du Seigneur, si le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter, pour lui, pour en faire son prophète, il voit aussi qu'il est urgent de proclamer cette parole du Seigneur, parce que le jugement va venir aussi et qu'il vient du nord. Et c'est bien ce qui allait arriver avec les troupes de Nebuchadnezzar. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, contre les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Hérin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Et je me souviens du lieu, c'était à l'escalier du Grand Chêne à Lausanne, du lieu où même dans les toilettes où j'allais prier avant de faire la conférence, le Seigneur m'a parlé, parce que j'avais une trouille monstre, de donner le message que je devais donner. Il y avait 700 personnes qui étaient là. Et cette parole m'a été redonnée:
ne les crains pas de peur que moi, je ne t'épouvante. Et vous savez, c'est autre chose. L'épouvante de Dieu. Être épouvanté par Dieu et non plus par des hommes. Quand le Seigneur veut qu'on aille jusqu'au bout, il nous y conduit et il nous rappelle sa parole. Que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer alors qu'on est timide, une muraille d'airain contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs, contre tout le peuple du pays. Et il a eu tout le monde contre lui. Il a eu les magistrats, il a eu les sacrificateurs, il a eu sa propre famille contre lui, il a eu tout son milieu sacerdotal, il a eu les prophètes contre lui. Vous avez qu'à lire ce livre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voilà la vocation de Jérémie, qui n'est pas du tout une vocation grandiose comme celle d'Ésaïe. Il n'a pas vu le Seigneur dans sa gloire, les pans de sa robe remplissant le temple, mais il a entendu la parole du Seigneur qui a touché sa bouche et tout s'est accompli. Il a eu beaucoup d'ennemis qui ont voulu sa mort. Il a été emprisonné, il a été jeté dans une citerne. On a fait toutes sortes de choses contre lui, mais il est resté ferme, il a pleuré. Il a eu des moments où il disait, Seigneur, j'en peux plus, je me tairai. Oh, si je pouvais m'envoler dans le désert, dans une cabane, loin de tout. Il a eu des moments de découragement, il a dit au Seigneur, mais enfin, Seigneur, tu es juste, chapitre 12, hein, mais je voudrais quand même bien discuter avec toi. Je trouve que c'est merveilleux. Un homme comme Jérémie, il est franc, il est loyal avec son Dieu, il y a des moments où il ne comprend pas, il le lui dit. C'est quand même un peu lourd, Seigneur. Comme Job aussi, comme Asaph, il y a des moments où on ne comprend pas. Et alors il dit, mais je ne veux pas parler comme les méchants, mais son Seigneur, quand je vois que les gens prospèrent, Père, ils font toutes les iniquités possibles. Et puis moi, mon châtiment revient chaque matin. Quand j'ai médité là-dessus, la chose a été pénible à mes yeux, jusqu'à ce que je fusse entré dans le sanctuaire de Dieu. Et ce qui manquait à tous ces hommes, que ce soit Job, que ce soit Asa, ou que ce soit Jérémie, c'est une plus grande intimité avec Dieu. L'intimité avec le Seigneur vous est donnée d'une façon plus profonde, vous êtes réconcilié avec tout ce qui peut vous arriver. Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Joseph en est une image, il pourra dire à la fin, mais ne vous inquiétez pas mes frères de tout le mal que vous m'avez fait. C'était pour votre bien. C'était pour votre bien. Alors, j'en suis heureux. Et pour que puisque vous savez que tout ce que Jérémie leur a dit et que la ville a été détruite, mais c'était pas drôle d'aller leur dire, ne mettez pas votre confiance dans des paroles de mensonges disant, c'est le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel, il ne nous arrivera rien. Moi, je vous dis, allez à Silo et voyez que il y avait le lieu que j'avais choisi pour y faire habiter mon nom, mais puisqu'ils ont péché, Silo est devenu une ruine, eh bien ce sera une même ruine, Jérusalem. C'est pas possible. Il est fou, cet homme-là. Il est dangereux. Et même qui vous dit que c'est pas une cinquième colonne, que c'est pas un collaborateur. Il a passé pour un collaborateur. On l'a arrêté parce qu'on disait qu'il passait aux Chaldéens. Il a passé par toutes les épreuves possibles. Il a été calomnié, il a été battu, il a pleuré. Il a pleuré non pas sur lui-même, mais il a pleuré sur les autres. Il a pleuré sur sa famille, il a pleuré sur les siens, il a pleuré sur Jérusalem. Mais alors, le Seigneur lui a montré que c'était lui aussi qui apporterait non seulement une grande consolation parce qu'il avait prédit qu'au bout de 70 ans, il y aurait le retour, qu'il ne faut pas confondre avec le chapitre 33 que vous avez lu, et qui ne s'applique pas au retour parfait, qui correspondent aux figues, à un certain nombre de figues, parce qu'il voit des bonnes figues et des mauvaises figues, et le Seigneur lui dit qu'il va prendre un certain nombre de figues et qu'il va les remettre à Jérusalem. Ça, c'est
ce résidu qui est remonté de la captivité, pour que, au moment où le Seigneur paraîtrait, le temple qui avait été restauré après par Hérode, le temple construit au temple Cyrus, restauré par Hérode, eh bien, soit là pour le Seigneur quand il serait là dans sa première venue comme l'agneau de Dieu. Mais le chapitre 33 que vous avez lu, c'est le retour définitif, hein, le triomphe d'Israël, et qui doit donc retourner dans ses terres, retrouver ses terres avant la seconde venue du Seigneur. Vous avez là la certitude. Et c'est par cela que nous allons terminer. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, chapitre 33, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Vous voyez, on peut même être en prison et recevoir une révélation. C'est ça qui est merveilleux. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel, invoque-moi et je te répondrai. Quand vous êtes dans la prison, ça fait du bien, ça. Hein? Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville, sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, et je les guérirai. Il a mis Israël à l'écart pour un moment, mais il a dit qu'il reprendrait ses relations avec son peuple, Romains 11. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, ce qui ne s'est pas fait au premier retour. C'était seulement les captifs de Juda. Donc c'est l'autre retour. Et je les rétablirai comme autrefois. Ils ne sont pas rétablis comme autrefois maintenant. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. C'est pas encore fait. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, ce qui n'est pas encore le cas, parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout leur bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. C'est pas le cas maintenant encore. C'est donc à venir. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car il est bon, car sa miséricorde demeurera toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin, et aux environs de Jérusalem, qu'habitait Jérémie, et dans les villes de Juda. Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte. C'est beau, hein, cette expression. Et vous voyez le bon berger, hein, qui compte ses brebis, et les brebis qui passent sous la main de celui qui les compte. 98, 99, il en manque une. Alors on les laisse pour aller chercher celle qui est perdue. Il y a des perles quand vous lisez les prophètes. Hein. Simplement là, cette histoire du berger et qui passe la main sur ses brebis, qui les compte, et vous êtes ses brebis, et le Seigneur vous a compté. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda en ces jours et en ce temps-là. Je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pas. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Vous croyez que c'est le cas maintenant? Non. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice, Jéhovah Tsikeni. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec des offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Alors ça, c'est à vous à savoir. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les lévites, les sacrificateurs qui font mon service, de même qu'on ne peut